c'est un effet de résonance. Voilà, ça doit aller mieux, voilà. Oui Seigneur, nous avons véritablement besoin de ton Esprit Saint pour comprendre ta parole au fond de nous-mêmes, au fond de nos cœurs, pour qu'elle produise du fruit, pour qu'elle grandisse, peut-être aussi pour qu'elle bouleverse nos cœurs, nos vies, pour qu'elle nous travaille. Seigneur, viens briser les résistances, les murs que nous dressons entre ta parole et nous-mêmes. Oui Seigneur, nous te le demandons, humblement, viens casser cette résistance, que nous puissions vraiment être au bénéfice de tous les bienfaits de ta parole. Amen. Voilà alors, dimanche des rameaux, on s'attend bien sûr, Hosanna, Hosanna, à lire le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Eh bien non, une fois n'est pas coutume. Bon, ben, il y a autre chose. pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai déjà prêché deux fois sur les mêmes textes, à l'occasion des rameaux, et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me renouveler. Bon. Deuxième raison, j'avais une prédication qui était toute prête, celle du 24 février, culte qui a été annulé pour cause de neige. Alors ça fait toujours un petit peu râler, se dire on a préparé quelque chose et puis bon, ça tombe à l'eau. Et puis, troisième raison, la plus importante, là je retombe sur mes pattes comme un chat, c'est que le texte qui était prévu pour le 24 février, donc ma prédication, c'est le texte de la Transfiguration, et je me suis dit, mais il colle parfaitement à ce dimanche des rameaux, puisqu'il s'agit de la gloire de Jésus. Vous êtes d'accord? Bon, voilà, je m'en tire avec une entourloupe. Alors nous allons lire le texte de la Transfiguration. Et après tout, vous aviez qu'à être là le 24 février. Voilà. Alors ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 28 à 36. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur, et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parler de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper, et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne, en ces jours-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Eh bien, voilà un récit, un texte qui n'est pas facile. Je me comprends, il n'est pas compliqué à comprendre dans le déroulement de l'événement. Ce qui se passe, on le comprend assez facilement. On devine également assez facilement l'intention de cette transfiguration. Hein. Mais quelle est la signification profonde de cette transfiguration? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Et puis surtout, j'allais dire, qu'est-ce que, pour nous qui sommes ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? En quoi est-ce que ce texte sur la transfiguration peut changer ma vie? En quoi est-ce qu'il vient bouleverser ma vie? En quoi est-ce qu'il me dit l'évangile de Jésus-Christ? C'est ça la question, finalement, qui nous intéresse le plus. Sinon, après, bon, c'est une étude théologique intéressante, mais qui n'a pas tellement d'intérêt. Je trouve même un peu frustrant, parce que Pierre, Jacques et Jean ont vu quelque chose, certainement, d'extraordinaire. Mais nous, on n'a que le récit qui est bien pauvre à côté de la vision qu'ils ont dû avoir. Alors, pour essayer d'expliquer à ces divers stades ce texte, vous savez, le mieux, comme souvent quand on a une difficulté dans la Bible, c'est d'essayer de trouver d'autres textes qui ressemblent, dont on peut faire un rapprochement. Alors, le premier texte auquel j'ai pensé, c'est un peu naturel, c'est le dernier sur lequel j'ai prêché, c'était en janvier, je crois fin janvier, je l'avais encore dans la tête, et je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de similitudes. C'est le texte, vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui étaient là, qui parle de Jésus qui revient à Nazareth et qui va annoncer, enfin dévoiler sa messianité dans la synagogue de Nazareth, en lisant une prophétie qui le concerne dans le livre d'Ésaïe. En quoi est-ce qu'il y a des similitudes? Eh bien, à Nazareth, Jésus a révélé sa messianité, et ici, sur la montagne, Jésus révèle, on va dire, sa divinité, puisqu'il révèle sa gloire. Hein, c'est peut-être même un cran au-dessus. Donc il y a une partie de la personnalité de Jésus qu'il révèle à Nazareth, et une autre partie qu'il révèle sur la montagne, avec les disciples. Et puis il y a une autre similitude, j'avais bien pris soin de vous faire remarquer qu'à Nazareth, dans la synagogue, en puisant sa légitimité dans les textes anciens, donc en l'occurrence le livre d'Ésaïe, Jésus marquait par là le fait qu'il souhaitait une continuité, il venait affirmer une continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qu'il apporte à ce moment-là. En tout cas, il prouve qu'il ne souhaite aucune rupture entre l'ancienne et la nouvelle alliance, puisque bon, ben, il y avait deux choses, hein, c'est dans la synagogue, donc le milieu juif parmi les juifs, hein, et puis ce livre d'Ésaïe. Et également ici, même chose, sur la montagne de la Transfiguration, Jésus est vu par les disciples en train de discuter avec Élie et Moïse, les deux grandes figures emblématiques de l'ancienne alliance. Donc là aussi, Jésus insiste finalement, en révélant sa gloire, insiste sur le fait qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Hein. Donc Moïse est par excellence l'homme de l'ancienne alliance, puisque c'est par Moïse que les Juifs ont eu la loi, etc. etc. Et puis Élie est bien sûr le prophète emblématique parmi les prophètes du peuple d'Israël. Alors voilà pour les similitudes. Et il y a aussi, j'allais dire des divergences, mais même mieux, des oppositions qui font que ça rapproche ces deux textes finalement, parce que autant à Nazareth, Jésus fait une révélation publique, ouverte, publique, d'ailleurs un public qui reste incrédule au passage, enfin bon. Et puis ici, sur la montagne de la Transfiguration, c'est absolument privé. Non seulement il prend que ses disciples, mais il sélectionne trois de ses disciples, et puis il faut croire qu'il leur recommande de surtout pas en parler en redescendant de la montagne, c'est ce qui est dit dans le texte. Bien entendu, les disciples, un jour ou l'autre, finiront par en parler, parce que sinon on n'aurait pas eu le récit dans les évangiles. Mais à quel moment? Peut-être beaucoup plus tard, peut-être après la Pentecôte, après peut-être même l'Ascension, bien longtemps après. Hein. Voilà. Alors, voilà, ce rapprochement nous permet de comprendre déjà l'intention, la transfiguration, révéler une partie de la personne de Jésus, la partie divine, au travers de sa gloire. Ensuite, alors, il y a d'autres choses qui méritent d'être éclairées. Il y a cette histoire de sommeil. Ça vous intrigue pas? Vous ne trouvez pas curieux que les disciples, au moment où vraiment il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, qui s'endorment? Alors ça m'a fait penser immédiatement à un autre texte qui est vraiment, alors là pour le coup, vraiment troublant de similitude, Je vais vous laisser un petit peu deviner. C'est un récit où Jésus, de la même façon qu'ici pour la transfiguration, prend à part avec lui les mêmes disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour prier avec lui, et récit dans lequel les disciples vont également s'endormir. Gethsémané, bien sûr. Hein. Donc, vous ne trouvez pas, c'est extraordinaire, c'est les mêmes disciples. Ça commence presque pareil. Hein. Jésus invite Pierre, Jacques et Jean, vraiment les mêmes, à le suivre pour prier. On l'a dans Marc, au chapitre 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse, etc. Vous connaissez le récit. Et un peu plus loin, il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Alors moi je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces disciples qui, à chaque fois qu'ils accompagnent Jésus à un moment quand même clé, un moment important de son ministère, ils s'endorment. Alors il y a plusieurs solutions. Soit ils ont été piqués par la mouche de tsetse, ce qui est peu probable sous ces latitudes, ou bien il faut y voir autre chose que le hasard, peut-être l'action du Saint-Esprit, il y a quelque chose. Toujours est-il que, avant de se pencher sur ce problème de sommeil, de quelle façon on va pouvoir rapprocher ces textes? Je me suis dit, mais à Gethsémané, cette scène qui se déroule, alors je vous rappelle la scène, hein, Jésus prie d'angoisse, se met à transpirer du sang, il est dans une angoisse, et pour cause, il réalise qu'il est véritablement porteur du péché de l'humanité, en une seule fois, abandonné de Dieu. Et Jésus vit cela d'une façon intense, nous dit le texte. Mais ce que voient les disciples, pour le peu qu'ils en ont vu, puisqu'ils se sont endormis, c'est une scène, excusez-moi si ça vous choque, mais une scène pitoyable. Une scène, mais à désespérer le plus optimiste des disciples. C'est une scène, mais qui fait dégringoler tout le château de cartes. Alors bien sûr, Jésus est extraordinaire, il avait des paroles extraordinaires, les foules buvaient ses paroles. Il a fait des miracles, il a purifié des lépreux, il a guéri des boiteux, des aveugles, etc. Ils ont vu des choses extraordinaires. À Gethsémané, mais tout s'écroule. Imaginez seulement que les disciples n'aient vécu que Gethsémané, c'est-à-dire n'aient pas vécu la transfiguration. Et réalisez surtout que Gethsémané, c'est vraiment le dernier souvenir qu'ils auront de la vie partagée avec Jésus. C'est le dernier souvenir qu'ils ont, parce que Golgotha, il y avait Jean quand même. Jean a suivi à Golgotha. Hein. Il est passé à la croix avec la mère de Jésus. Mais les autres, dispersés. Donc Gethsémané, c'est les dernières minutes vécues avec Jésus. Donc le dernier souvenir qu'ils ont de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils voient? Un homme accablé qui prie son père d'éloigner la coupe, etc. Enfin, quelque chose d'horrible. Eh bien, je me dis que ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, n'auraient pas pu supporter cette scène s'ils n'avaient pas, au préalable, X mois, X années avant, vu la transfiguration. En quelque sorte, la transfiguration, un peu l'antidote de Gethsémané. Et ne fallait-il pas que, à l'issue de la mort de Jésus, que les disciples gardent un soupçon d'espoir, d'espérance, de quelque chose de ténu, pour que Jésus puisse, au moment de la résurrection, apparaître, parce qu'il se serait dispersé, puis terminé, il n'y avait plus de disciples. Là, je pense que ce qui a permis à Pierre, Jacques et Jean, et un peu par contagion aux autres disciples, de tenir le coup et de garder un minimum d'espérance, c'est d'avoir vu la transfiguration, d'avoir eu le fait que Jésus leur a révélé sa gloire et sa divinité. Voilà donc encore une explication. Vous voyez, en rapprochant des textes, on arrive à saisir peut-être des significations aux événements. Alors maintenant, parlons de ce sommeil. Je vous cacherai pas que je me suis cassé les dents parce que j'ai absolument voulu, pendant longtemps, trouver une signification commune au sommeil des disciples dans les deux textes. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Il suffisait de relire soigneusement les textes. Je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas. À Gethsémané, eh bien, on a affaire à trois marmottes. Sommeil, mais alors comme des souches. Jésus va essayer de les réveiller à deux reprises, sans succès. À la troisième, il laisse tomber. Bon, bah, dormez maintenant, les gars, c'est bon, hein, j'ai compris. Alors que sur la montagne de la Transfiguration, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai lu tout à l'heure? Je relis le verset. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés. On sent qu'il y a une lutte contre le sommeil, une résistance. C'est très dur pour eux. Ils sont accablés, appesantis de sommeil, mais ils résistent et ils voient, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Vous voyez la différence? Pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Ça a forcément une signification. Et je vais vous dire, je l'ai découverte assez tardivement. Enfin, j'ai une signification, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Hein, vous prenez, vous laissez, comme vous voulez. Hein. Mais c'est au début du mois, c'est Gérard qui prêchait. Et dans sa prédication, il a évoqué un autre texte qui est dans la Genèse. Juste comme ça, il a évoqué en passant ce fameux récit d'Abraham qui fait un sacrifice à Dieu parce qu'il va sceller une alliance avec Dieu. Et vous savez comment il fait? Dieu lui dit de prendre une génisse de 3 ans. Alors c'est dans Genèse 15 au verset 9. Dieu lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Et puis à ce moment-là, Gérard, en évoquant ce texte, a dit, et puis on voit que Abraham tombe dans une sorte de torpeur, effectivement. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil. Et aussi de frayeur. Alors c'est complètement antinomique parce qu'on sait que la peur, la frayeur, est le meilleur système pour ne pas s'endormir. Hein. Donc il y a quelque chose là aussi de surnaturel. Hein. C'est pas un sommeil parce que le gars il avait bossé pendant 24 heures d'affilée. Non. Abraham fut accablé de sommeil. C'est exactement le même terme que pour les disciples sur la montagne de la Transfiguration. Ils furent accablés de sommeil. Alors là, je me suis dit, ben voilà la solution. Pourquoi ces personnages, Abraham, les disciples, au moment où Dieu se manifeste, pourquoi s'endorment-ils? Je ne vais pas vous laisser mijoter plus longtemps, je vous donne la solution.
Insoutenable,
le suspense, je sens une mouche qui... Bon. Il se trouve, c'est une notion tout à fait biblique qu'on trouve dans toute la Bible, y compris dans le Nouveau Testament, que... Il est dit que l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu et vivre. C'est-à-dire, si par hasard vous voyez un jour la gloire de Dieu, vous pouvez dire, ça y est, quick, c'est fini. Non, mais bon, c'est comme ça. On voit ça par exemple avec Moïse sur le Sinaï, à un moment donné, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, t'es bien gentil, mais si je te montre ma gloire, t'es mort. Alors, je vais passer devant toi. Mais je vais mettre ma main, il y a tout un stratagème. Dieu est obligé d'inventer un stratagème pour que Moïse ne meure pas. Il va passer devant lui et au moment où il enlèvera sa main, il sera de dos. Enfin, tout un système, un stratagème. Sinon, Moïse serait mort. Alors, voilà. Même chose pour Abraham ici. Abraham, il va conclure une alliance avec Dieu. Et le problème, alors, cette histoire d'animaux partagés, là. J'ai lu les notes en bas de ma Bible, qui est pas mal faite, la Bible à la colombe, il donne pas mal de précisions. Ils expliquent que c'était un système à l'époque pour conclure un contrat, une alliance, pas une bricole, hein, quelque chose de, un pacte vraiment solide et sérieux. On coupait les animaux, on les mettait chaque moitié de chaque côté, et les deux parties contractantes devaient passer entre les animaux en se disant, si je romps le contrat, si je trahis le pacte, eh bien je serai comme ces animaux, coupé en deux dans le sens de la longueur. Ça devait faire réfléchir. Et comme ici Dieu scelle un pacte, enfin conclut un pacte, une alliance avec Abraham, il est bien obligé de passer avec lui. Problème, alors sous la forme, il va passer en fait sous la forme d'un feu, d'un éclair, je pourrais vous dire ça, on va vous relirez tout ça chez vous, c'est passionnant. Une fournaise fumante, des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'est la gloire de Dieu. Et le problème, c'est qu'Abraham, il faut qu'il passe aussi, puisque il est l'une des parties contractantes. Alors, pourquoi n'est-il pas mort? Eh bien, parce qu'il était accablé de sommeil, c'est-à-dire qu'il était dans un état semi-comateux, aux trois quarts endormi. Il a réalisé qu'il avait affaire à la gloire de Dieu, mais sans la voir pleinement. Et de cette sorte, de cette façon, il a conservé la vie. Même chose pour les disciples. S'ils avaient vu pleinement la gloire de Jésus, autrement dit la gloire de Dieu, ils étaient morts. Et là, dans leur sommeil, ils luttent et ils voient vaguement, c'est comme ça que je l'interprète, ils voient vaguement la gloire de Jésus, et donc, ils restent en vie. Bon, c'est une explication, si vous ne va pas, vous en trouvez une autre. Mais vous voyez, hein, il faut parfois aller chercher toutes sortes de textes pour arriver à comparer. Voilà. Et puis, ce n'est pas fini, parce qu'il reste aussi la partie que nous apporte ce texte, qu'est-ce qu'il dit pour notre vie. Alors, moi, je me dis, toute cette histoire de sommeil, ça nous concerne. Je ne pense pas qu'on soit appelé à voir directement la gloire de Dieu, encore que, pourquoi pas. Je suis parti du principe que, dans la Bible, le sommeil est très souvent une image de la mort. On voit ça un peu partout, même dans le Nouveau Testament. Vous voyez, par exemple, Jésus. Bon, ben, Jésus, dans la barque, dans la tempête, il s'endort. Ça représente la mort, le sommeil de la mort. Hein. Mais on voit par exemple dans les épîtres Paul qui va écrire à un moment donné à je ne sais plus quelle ville, il va écrire à propos des frères qui sont endormis. C'est un euphémisme en fait pour dire les frères qui sont morts, parce que ces braves gens, ils vivaient dans l'imminence du retour de Jésus, et puis ils voyaient les frères qui arrivaient à un certain âge avec les maladies, etc., ils mouraient. Bon. Et, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va leur arriver puisque Jésus n'est pas encore revenu, ils sont morts. Jésus lui-même, à un moment donné, quand il va partir pour Béthanie pour aller ressusciter Lazare, il dit à ses disciples, il faut que j'aille à Béthanie parce que Lazare est endormi et il faut que j'aille le réveiller. Et à tel point que les disciples, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils croient que Jésus parle d'un gros dodo, là, que fait Lazare. On dit, bon, on va le réveiller, ok. Et Jésus est obligé de lui dire, Lazare est mort. Mais d'abord, il commence par dire, il est endormi et il faut que j'aille le réveiller. Donc, vous voyez cette image, le sommeil représente la mort. Alors, il semblerait que, en prenant l'exemple des disciples, que ce soit à la montagne de la Transfiguration ou à Gethsémané, il semblerait que pour suivre Jésus, on aille droit vers le sommeil. Autrement dit, la mort. Alors, ça m'a quand même un petit peu interpellé. Je me dis, mais c'est pas très réjouissant. Mais après, j'ai réalisé qu'il ne s'agit pas forcément de la mort du corps. Vous savez, alors là, ne vous inquiétez pas, elle arrivera bien assez vite toute seule. On n'a pas de souci à se faire. Mais de quelle mort, à quelle mort Jésus nous invite-t-il? Comme il a invité ses disciples en montagne de la Transfiguration ou à Gethsémané, il a invité ses disciples à quelque sorte à mourir avec lui pour l'accompagner. Comment pouvons-nous accompagner Jésus dans cette mort? Et de quelle mort s'agit-il? Eh bien, là aussi, il n'y avait pas besoin d'aller chercher très loin, parce que en relisant le texte de la Transfiguration, le premier verset, donc le 28, je me suis dit, mais il y a une liaison là. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eût dit ces paroles. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eût dit ces paroles. Ça veut dire que le texte de la Transfiguration est en relation avec les paroles dites auparavant. Alors, je suis remonté dans le chapitre. Et puis là, qu'est-ce que je dis? Il dit à tous, si quelqu'un veut, vraiment quatre versets avant, hein, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. La croix, c'est bien fait pour mourir, non ? C'est pas une chaise longue, hein, c'est, d'accord ? Et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie, perdra la vie, c'est bien mourir, hein, dites-moi, si, arrêtez-moi si je me trompe, quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se ruine lui-même ? Etc. Voilà là. Voilà l'exhortation pour ce matin. Nous sommes effectivement, pour suivre Jésus, nous sommes invités à mourir. Et on utilise souvent cette expression « mourir à soi-même ». Ce n'est peut-être pas une expression très judicieuse puisqu'elle n'existe pas dans la Bible, mais elle veut quand même dire ce qu'elle veut dire. Mourir à soi-même. Faire mourir en nous tout ce qui est de la vie, qui n'est pas forcément mauvais, qui est de notre vie, mais qui prend la place de Christ. Tout ce qui nous possède, qu'on croit posséder. Rappelez-vous toujours le récit avec le jeune homme riche. Hein. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et là tu pourras me suivre. Voilà de quelle façon Jésus nous demande de mourir à nous-mêmes. Et alors là, j'ai déjà eu l'occasion de prêcher là-dessus, mais tant pis si je radote, tant pis si c'est redondant. Mais je le répéterai à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Tout le secret de l'Évangile est là. Si nous voulons l'Évangile, on peut parfaitement la comprendre, l'assimiler intellectuellement. Mais si nous voulons vraiment la vivre, eh bien, elle nous propose une seule chose, c'est la mort à nous-mêmes, c'est-à-dire renoncer. C'est ce que dit Jésus, hein, renoncer à notre vie. Alors, est-ce qu'il faut aller se mettre dans un monastère avec une robe de bure et puis terminer, on pense ? Non. Non, mais regardez quand même, mes frères et sœurs, regardez, et j'ai déjà eu l'occasion là aussi de le dire, combien d'énergie, de temps, d'argent, d'efforts nous sommes capables de passer pour nous faire une belle vie. Attendez, je viens de dire nous faire une belle vie. On oublie trop souvent que la plus belle des vies, c'est pas celle qu'on se fait, ou qu'on aimerait se faire, c'est celle que Dieu nous donne. Mais celle-là, on y réfléchira plus tard, voilà mes objectifs. Et dans le fond, vous savez, on se fait une belle vie, pas forcément avec des choses injustes, ou avec le péché, avec c'est quoi, de répréhensible. Hein. Bien travailler pour avoir une belle situation, c'est pas répréhensible, c'est une bonne chose. Économiser pour pouvoir s'acheter une belle maison, etc. Et bâtir sa vie, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas forcément des mauvaises choses. Mais le problème, c'est que ces choses-là prennent le dessus sur la vie que Jésus a voulu, que Dieu a voulu pour nous. Et il nous faut les amener à la croix. C'est pour ça que Jésus dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors, se charger de sa croix, voilà, les amis, c'est amener à Golgotha, eh bien, tout ce qui fait nos vies, mais qui nous éloigne de Dieu, qui nous sépare de Dieu. Et là-dessus, en allant plus loin, j'ai réalisé que, dans le fond, vous savez, quand il s'agit de mourir à soi-même, finalement, le jour où on réalise que notre vie est faite de péché, de crasse, d'orgueil, de haine, de violence, etc., ben finalement, il est beaucoup plus facile d'y renoncer, parce qu'on se rend compte à quel point c'est moche, que quand notre vie est faite de jolies petites choses, tout à fait honnêtes, tout à fait correctes. Alors ça m'a frappé, et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais diantre, pourquoi Jésus aurait-il dit, hein, pour rien, que des prostituées et des péagés nous devanceront dans le ciel? Eh bien c'est pour ça, parce que leur vie était faite de choses vraiment moches. Alors le jour où ils se repentent, il n'y a pas de problème. Alors là, ils remettent tout sur la croix et puis ils en mettent des clous, hein, pour pas que ça s'échappe. Hein. Ils en mettent. Tandis que tout ce qui fait nos vies et qu'on trouve très correct, très honnête, très propre, On n'a pas tellement envie de s'en séparer, et pourtant, voilà l'appel de Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Je vous vois bien consterné, mais je suis désolé, je vous cite l'évangile. Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. À méditer. Amen.